En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Voilà, alors l'enseignement de ce soir, oh bon sang, attendez, il y a encore des gens qui arrivent.
Ouais.
L'enseignement ce soir donc portera sur la paramita de la diligence. Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint que je vais vous partager comme ceci. Normalement, vous devriez le voir à votre écran. Voilà, est-ce que vous voyez ce que je vous ai partagé? Vous pouvez me lever le pouce pour me dire OK, super. Impeccable. OK. Donc, la paramita de la diligence. Alors, la paramité de la diligence, ça se dit tsundru en tibétain. Donc, on a traduit ça par diligence. Diligence, c'est parfois on traduit ça par persévérance. Dans certains textes, vous verrez aussi le mot courage. Et Shantideva lui traduit ça par enthousiasme pour le bien. Ce qu'il faut. Retenir, qu'est-ce qui se dégage de Tsundru, c'est l'idée d'effort, de constance dans l'effort, d'énergie orientée vers ce qui est positif, vers ce qui est propice à l'éveil. Là, on va parler d'une paramita. Donc, paramita, je rappelle, c'est toujours l'idée de vertu, vertu transcendante. Vertu à quoi? Vertu à l'éveil. Vertu à l'éveil. Comme toutes les paramitas, la diligence sert à travailler sur notre esprit. Et quand on entend travailler sur notre esprit, c'est-à-dire travailler sur nos tendances, nos habitudes, je ne sais pas pourquoi, moi sur mon écran, c'est rayé en rouge, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, tout le propos des paramitas, petit rappel, c'est de travailler sur nos tendances, c'est-à-dire faire en sorte de minimiser, de diminuer nos réactions négatives, nos actes négatifs, de moins réagir par rapport à nos facteurs perturbateurs, de moins réagir par rapport à nos émotions négatives, et d'un autre côté, de cultiver tout ce qui... justement, va nous orienter vers l'éveil, nous cultiver les actes positifs. Et quand on parle de positif, négatif, voilà, je reviens à la notion de karma, parfois à l'emporte-pièce, on dit acte, karma négatif, karma positif. Il faut bien comprendre que dans le bouddhisme, quand on parle de ça, on n'est pas en train de dire qu'il y a... Dans le bouddhisme, en fait, il n'y a rien qui soit considéré comme bien ou mal de manière ultime. On parle toujours de karma positif ou négatif, karma positif, dans le sens qui a le pouvoir de m'éveiller. Karma positif, c'est qu'est-ce qui est vertueux. Vertueux à quoi? Vertueux à l'éveil. Et au contraire, on va considérer que tout ce qui est négatif, karma négatif, c'est un karma, c'est une tendance, karma, ça désigne à la fois un acte et à la fois un schéma réactionnel, une façon de réagir, une façon de percevoir les choses, une façon de réagir aux choses, donc qui va entraîner des actes. Et on va considérer que c'est un karma négatif, pas parce qu'on fait est mal en soi, comme s'il y avait quelque chose d'arbitrairement défini comme bien ou mal en absolu, mais parce que on considère que cette façon de réagir, cette façon de voir ou cette façon d'agir n'a pas le pouvoir de nous éveiller, n'a pas le pouvoir de nous mener vers l'éveil. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on va parler de karma vertueux ou karma non vertueux en disant karma vertueux, c'est ce qui est cause de bonheur pour moi et pour les autres, et karma non vertueux, c'est ce qui est cause de souffrance pour moi et pour les autres. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur le petit schéma. Donc en fait c'est quelque chose qui est tiré d'une peinture qu'on appelle la roue de la vie, le centre de la roue de la vie, une tanka traditionnelle tibétaine, où on voit, d'ailleurs non, la roue de la vie n'est pas spécialement propre au bouddhisme tibétain, on la retrouve aussi dans d'autres traditions, mais dans la roue de la vie, vous voyez au centre de la roue de la vie, on va voir les trois facteurs perturbateurs qui sont symbolisés par trois animaux. On va voir le coq qui symbolise le désir-attachement, le serpent qui symbolise la haine et l'aversion, et puis alors là c'est un sanglier, parfois c'est représenté par un cochon qui va symboliser l'ignorance fondamentale, en fait qui va être la racine des autres poisons. Et en fait on voit ces trois poisons se mordre la queue, et tant qu'on est sous l'emprise de ces trois poisons, et ben du coup on est enchaîné au samsara, on est enchaîné dans ce cycle samsarique qui aura pour caractéristique la souffrance. Tant qu'on ne sort pas de ça, on est quelque part condamné à rencontrer dukkha, à rencontrer la souffrance. Et travailler sur notre karma, ça veut dire que tant qu'on est sous l'emprise de nos facteurs perturbateurs, de nos tendances négatives, on doit prendre conscience que cette façon de réagir, cette façon de fonctionner nous enchaîne, que c'est une perte de liberté, non seulement ça nous enchaîne, ça nous prive de toutes nos libertés et ça nous conduit à la souffrance, et c'est ce qui est représenté en fait, juste la partie droite. On voit des êtres qui sont enchaînés par les démons, par les maras. Ils sont ligotés. Voilà, ça représente notre emprise, le fait d'être sous l'emprise de nos facteurs perturbateurs. Et au contraire, travailler sur nos tendances, travailler sur l'esprit grâce au dharma, grâce au développement spirituel, va nous permettre de nous libérer de ce cycle de l'existence, d'acquérir plus de liberté, plus de bonheur, etc. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et on a vu déjà dans la paramita de l'éthique que le concept de liberté, comme on l'entend habituellement, c'est plutôt, pour l'esprit ordinaire, la liberté, ça consiste à faire ce que je veux. Je fais ce que je veux. La Matsutri me dit souvent, on conçoit la liberté, je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Pour les bouddhistes, pas du tout. Pour les bouddhistes, la véritable liberté va venir de la discipline. Je fais ce que je veux devenir. C'est ça ce que nous amène à comprendre le dharma, c'est que finalement, tout ce qu'on fait va conditionner ce qu'on va devenir. Nous sommes le fruit de ce qu'on a fait, et donc nous serons le fruit de ce qu'on fait maintenant. Donc, si on veut véritablement devenir, avoir une aspiration à devenir libre et heureux, ça va dépendre d'une discipline, ça va dépendre de nous, ça va dépendre de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de comment on voit les choses, de comment on réagit aux choses. Donc, quelque part, ça va nous demander un travail sur nous-mêmes, si on, justement, si on aspire à devenir quelqu'un de plus bienveillant, de plus heureux, de plus compatissant, de plus libre. La liberté va venir justement de la discipline. C'est ce qu'on voit dans la paramita de l'éthique, de voir qu'en fait, la discipline, c'est la liberté, selon la voie bouddhiste. Ça commence par ça. Avoir un contrôle sur son esprit, avoir un contrôle sur ce qu'on dit, avoir un contrôle sur ce qu'on fait, avoir être libre de nos émotions. Ça ne veut pas dire ne plus ressentir d'émotions, ça veut dire ne plus être sous l'emprise des émotions, être libre des émotions. J'avais mis... Ça me fait souvent penser à cette histoire qu'on trouve dans la mythologie grecque, la référence à Ulysse qui se... vous savez, dans la mythologie grecque, les sirènes, les sirènes sont loin de la représentation qu'on en a des sirènes de Walt Disney. Au départ, les sirènes, ce sont des créatures mythologiques qui charment les marins par leur chant, et en fait, donc les marins sont attirés par leur chant, ils ne peuvent pas résister, et ils finissent par aller se jeter dans la mer, et ils sont dévorés par les sirènes. Alors, au départ, les sirènes de la mythologie grecque étaient représentées, en fait, des créatures avec des bustes de femmes et des ailes d'oiseaux. Après, bon, la mythologie occidentale l'a récupérée, puis on leur a donné des corps mi-femme, mi-poisson. Mais le thème de la sirène qu'on retrouve donc dans la mythologie grecque, c'est que donc le héros grec Ulysse doit traverser, pour retrouver sa patrie, il doit traverser dans cet endroit où les sirènes vivent. Et donc, il est mis en garde. Il est mis en garde, on lui dit que il faut pas qu'il succombe au chant des sirènes, sinon ça va mal se terminer. Et donc quelqu'un lui dit qu'il faut absolument qu'il se bouche les oreilles s'il veut en sortir vivant. Mais comme il est un peu aventurier, il dit à tout son équipage, bah, écoutez, bouchez-vous les oreilles et puis continuez de ramer. Moi, je vais m'attacher au mât parce que j'ai quand même envie d'entendre. Mais par contre, si je vous demande de me détacher, quoi qu'il arrive, vous ne me détachez pas, au contraire, vous resserrez les liens. Et donc, les marins suivent la consigne, ils traversent, et effectivement, en entendant le chant des sirènes, Ulysse supplie les marins de le détacher, et les marins suivent les consignes, ils resserrent les liens, et... pourquoi je vous raconte ça? Oui, parce que le thème d'Ulysse, je trouve qu'il y a quelque chose de très proche de la... Quelque part, ça reflète le travail qu'on a à faire sur justement ces habitudes, ces tendances négatives qu'on peut avoir. Dans le sens où la discipline... comme on l'a vu dans la paramita de l'éthique, la paramita de la discipline, ce n'est pas tant une brimade, c'est-à-dire ce n'est pas « tu ne dois pas faire ça, il faut que, il ne faut pas que », c'est plutôt quand on comprend qu'il y a quelque chose, il y a une tendance, une façon de réagir qui ne nous est vraiment pas profitable, si on sait qu'on réagit à ça, toujours de la même manière, du coup on va avoir des problèmes. C'est là qu'intervient le renoncement. C'est un renoncement qui vient véritablement d'une compréhension que cette façon de réagir ne m'est pas profitable. que c'est une source de problème. Et donc, du coup, quelque part, le renoncement s'apparente à une forme de liberté. Le renoncement s'apparente à « je ne souhaite pas souffrir, je renonce à souffrir, je renonce à la souffrance ». La Sutrim le dit souvent, le renoncement selon le bouddhisme, ce n'est pas une privation, c'est le renoncement à la souffrance. On renonce à souffrir et donc, par là, c'est une forme de liberté. C'est comme ça qu'on gagne sa liberté. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire le rapport avec, avec cette image des sirènes, parce que je pense que c'est tout à fait lié. Voilà, donc je fais ce que je veux devenir. C'est pas je fais ce que je veux, c'est je fais ce que je veux devenir. Pour pratiquer le dharma, il faut être clair avec ses aspirations. C'est-à-dire, ok, je fais ce que je veux devenir, mais quelque part, qu'est-ce que je souhaite devenir? Si ce que je deviens est le fruit de mes tendances, alors on nous demande de clarifier nos aspirations, de clarifier nos motivations. Qu'est-ce qu'on attend de l'éveil? Qu'est-ce qu'on attend de l'éveil en tant que libération? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous la libération? L'éveil est envisagé comme la paix ultime, le bonheur ultime, la libération ultime, c'est-à-dire la libération quelles que soient les circonstances. On souhaite être heureux, apprendre à être heureux, quelles que soient les circonstances. Ne plus attendre que les choses se conforment à nos attentes pour être heureux. Être capable de transformer sa manière de voir, sa manière de réagir de façon à être en paix et à l'aise, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes. C'est ça qu'on attend de l'éveil. Et en même temps, on ne peut pas nier qu'on est le fruit de nos tendances. C'est-à-dire, on dit que l'éveil est quelque part, il s'agit simplement de reconnaître la nature de ce que nous sommes, que c'est à portée de main, que c'est sous notre nez, que finalement c'est, ça s'acquiert, on parle de que ça peut se trouver sans effort, mais en même temps, on est pétri d'habitude, on est pétri de tendance. Nous sommes tendance. On en a déjà un peu parlé hein, avec la paramité de la patience, où je parlais du fait que c'est intéressant de voir voilà, que quand quelqu'un on en parlait un petit peu dans le contexte des personnes qui nous blessent, qui nous causent du tort, de voir que ces personnes-là, si on y regarde profondément, ce qu'elles disent, ce qu'elles font, ce n'est pas tant prémédité que finalement ce que les gens disent, ce que les gens font, c'est le fruit de multiples causes et conditions qui vient de leur... ces multiples causes... conditions qui peuvent venir de l'éducation, qui peuvent venir de ce qu'elles ont traversé dans leur vie, de ce qu'elles traversent actuellement, du fait qu'aujourd'hui, peut-être, elles vivent quelque chose de difficile, aujourd'hui, elles vivent quelque chose de dramatique, etc. Plein de causes et de conditions qui font que cette personne réagit de telle ou telle manière, etc. Et qu'en fait, nous, quand on voit quelqu'un qui est, quand on voit quelqu'un qui est insupportable, un insupportable, quelque part, on ne voit pas, on voit juste un emmerdeur entre guillemets. Mais on ne voit pas toutes les causes et conditions qui font que cette personne dit ça, fait ça, Et du coup, on limite notre vision, et c'est intéressant de voir, d'apprendre à regarder de manière plus vaste, de manière plus profonde, d'abord en commençant par nous, de voir que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, est le résultat de multiples causes, de conditions, de conditionnements, voilà, qu'on... Et d'ailleurs, on s'identifie beaucoup à tout ce qui nous constitue, c'est-à-dire... On va volontiers dire, bah voilà, moi je suis plutôt café, ah bah non, moi je suis plutôt thé, t'es plutôt chat, t'es plutôt chien, voilà, toutes ces choses-là, qui en fait sont juste plein de. On va appeler ça notre personnalité, mais derrière notre personnalité, bah finalement, c'est beaucoup de choses qui sont autres que nous. On va s'identifier à nos lectures, on va s'identifier à nos opinions, mais en fait, quand on parle de nos opinions, quand on parle de... c'est souvent l'opinion d'un autre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a vu, c'est l'influence qu'on a reçue de nos amis, de nos parents, etc., qui font qu'aujourd'hui, on a ce point de vue-là, mais d'ailleurs, il n'est pas figé, il peut tout à fait changer. Et de voir qu'on est le fruit de nos habitudes et que c'est important d'en prendre conscience, que finalement ce que nous sommes est une tendance. Et que même si on le voulait, c'est difficile d'être autre chose. Ça demande un travail, ne serait-ce que dans notre façon de parler, ne serait-ce que dans notre façon, dans notre démarche, dans notre façon de marcher, etc. Tout ça, on est pétri dans notre façon, voilà, de nos intonations de voix, tout ça, ce sont des habitudes. Et si on le voit, eh bien, on peut comprendre que si c'est le fruit d'un entraînement, bah, du coup, on peut travailler sur ce qu'on est. C'est-à-dire, si on veut, ce qu'on veut devenir va dépendre de ce qu'on fait, va dépendre de comment on travaille justement sur ses habitudes. Si par exemple on dit je suis plutôt lève-tôt, ou alors je suis plutôt lève-tard, en fait, ça c'est, on va s'identifier à un trait de caractère, mais entre guillemets, c'est juste une habitude qui s'est mise en place. C'est sûr que si on prend l'habitude de se lever tard systématiquement, eh ben, on devient un lève-tard. Si on prend l'habitude de se lever tôt, on devient un lève-tôt. Et on dit, voilà, je suis un lève-tôt. Moi, je suis plutôt du matin. Moi, je suis plutôt du... je suis pas du matin, etc. Mais en fait, ça peut être remis sur le tapis. C'est-à-dire, si pour X raisons, on décide que... Voilà, c'est quelqu'un qui dirait, je suis bien placé pour en parler parce que... Jusqu'à quelque temps, je m'estimais comme pas du matin. Je suis pas du matin. Qu'est-ce que je veux dire, je suis pas du matin? Bah, c'est que, on va dire, quelqu'un qui dit je suis pas du matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du mal à émerger. On a du mal à être pimpant, de bonne humeur, sociable, le matin. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, enfin voilà, j'ai décidé de travailler là-dessus. Pour devenir quelqu'un du matin, c'est aussi le fruit d'un entraînement. Donc évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il suffit de, voilà, en tout cas, pour devenir quelqu'un de pas du matin, ça je connais la recette. Si vous êtes du matin et que vous voulez devenir quelqu'un qui n'est pas du matin, c'est très simple. Il suffit de, quand vous vous levez, au lieu de vous lever tout de suite, eh ben, au contraire, vous traînez au lit, vous ne vous levez pas tout de suite, et puis vous broyez du noir. Voilà. Vous faites ça un jour, vous faites ça 2 jours, vous faites ça 3 jours, vous faites ça toute une semaine. Ben, vous verrez, l'habitude se prend très rapidement de devenir quelqu'un qui, au lieu d'être pimpant le matin, eh bien, ça devient très compliqué. Ça devient très dur, ça devient très pesant. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffit d'un entraînement adéquat. Et au contraire, l'inverse marche très bien, à condition qu'on ne soit pas trop identifié justement à ça, au fait de ne pas être du matin. Si on est prêt, justement, si on a l'aspiration, voilà, j'en reviens à l'aspiration, si on a l'aspiration de devenir quelqu'un qui est du matin, eh ben, faut mettre en place des conditions, c'est-à-dire une aspiration et puis un engagement. Ne pas trop se poser de questions. L'engagement, c'est, voilà, tous les matins, au lieu de broyer du noir, eh ben, je prends l'engagement de me lever tout de suite. Voilà, prendre des dispositions, me lever, passer à l'action, tourner, orienter mon esprit vers la pratique, orienter mon esprit vers la bodhicitta, etc. Mettre des choses en place. Et puis, dans la notion d'engagement, donc là, pareil, je reviens un petit peu sur l'engagement qu'on a vu dans la paramité de la discipline. L'engagement, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend un engagement, il y a l'idée de ne plus s'embarrasser du choix, de ne plus avoir l'embarras du choix. Dans le choix, c'est bien, il y a le libre arbitre, mais il y a aussi l'embarras du choix. C'est, voilà, aujourd'hui, est-ce que je fais comme ci, est-ce que je ne fais pas comme ça, etc. Dans l'embarras du choix, bah, c'est toujours un petit peu la frontière est floue. Et quand on travaille, quand on a envie de travailler sur une tendance qui nous est, dont on estime qu'elle n'est pas profitable, il faut qu'on prenne des engagements comme ça. C'est-à-dire, si on veut devenir quelqu'un qui, voilà, qui est du matin, bah, prendre l'engagement de ne pas se poser de questions et puis systématiquement, dès que le réveil sonne, voilà, on se lève et... Et plus on fait ça, moins la question va se poser. Moins on aura l'embarras du choix, justement. Et c'est ce qui va nous permettre, en fait, que bah, si on fait ça une semaine, un mois, etc., bah, qu'on ne se pose plus la question. Et que, naturellement, on soit les premiers à s'estimer, bah, là, moi, je suis quelqu'un de plutôt du matin. Ça peut aller très vite. C'est, voilà, c'est juste une histoire de, bah, d'entraînement. D'entraînement. Alors, ouais, juste, je vous partage cette image que j'ai trouvée sur Facebook que je trouvais assez marrante. C'est quelqu'un qui sort d'une cage en criant « Je suis libre ». Et puis, en fait, il se retrouve dans une autre cage. En fait, c'est pour… j'aimais bien cette image pour illustrer le fait que tant qu'on est dans le samsara, tant qu'on est sous l'emprise des émotions négatives, on croit être libre. Mais en fait, on est encore dans une autre… dans une autre cage. Alors, la diligence, les obstacles à la diligence, c'est la paresse. La paresse, c'est l'exact opposé de la diligence, donc le rappel, la diligence, l'enthousiasme pour le bien, l'énergie pour ce qui est positif, l'effort orienté vers ce qui est positif. L'exact opposé de la diligence, c'est la paresse. Et donc, travailler sur la paresse va faire naître l'intelligence, la diligence. La paresse, on va distinguer trois formes de paresse. La première forme de paresse, donc Shantideva, ça c'est Gampopa qui parle de la paresse indolente. La paresse indolente, c'est le fait de toujours remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est le dicton de la paresse indolente, c'est la procrastination. C'est-à-dire, quelque part, on aurait envie de faire quelque chose de positif, mais voilà, c'est la procrastination, c'est que d'avoir le sentiment qu'on aura toujours le temps et donc toujours, on a toujours voilà, on remet toujours à plus tard ce qui doit être fait. Voilà, et c'est pareil, c'est le fruit d'une habitude, c'est le fruit d'une tendance, la procrastination. Alors, pour la petite histoire, il y a Rinpoche qui nous raconte souvent ça. Rinpo Rinpoche, il se fait appeler Lazy Lama, qui veut dire le lama paresseux. Il aime bien plaisanter avec ça parce qu'il il se prétend quelqu'un de très paresseux. Et un jour, quand il vivait encore au monastère, voilà, il a pris conscience de la, du problème que lui posait la procrastination. Et donc, du coup, il avait marqué en rouge, il avait tagué en gros sur le mur de sa jambe, éliminer la procrastination. Et puis, un de ses voisins de chambre, en fait, lui avait, voilà, quand il a eu le dos tourné, avait rajouté en dessous « dès demain ». Voilà. Donc, c'est devenu son mantra. « Éliminer la procrastination dès demain ». Ça me fait bien rire. Voilà, ça, c'est la paresse indolente. Donc, c'est assez facile à comprendre que si on veut bah, justement fournir cultiver une énergie positive orientée vers la bodhicitta, orientée vers la pratique, il va falloir se débarrasser de cette tendance qui est la procrastination. La deuxième paresse, c'est la paresse vile. Alors parfois, c'est traduit par la paresse vile, c'est-à-dire qu'elle. C'est la paresse qui consiste, donc dans le pire des cas, c'est la paresse qui consiste à mettre toute son énergie dans des choses qui sont négatives. En fait, pour des objectifs mondains, on est capable de déployer énormément d'énergie. On est capable d'être absolument infatigable quand il s'agit de choses mondaines. Mondaine dans le sens où ça peut être très intéressant, mais ça n'a pas le pouvoir de nous amener vers l'éveil. Et même parfois, on met beaucoup d'énergie dans les choses qui non seulement ne seront pas profitables ni pour nous ni pour les autres, mais en plus seront négatives. C'est pour ça que c'est appelé paresse vile. D'ailleurs, ça aura des conséquences négatives. Et on y met toute notre énergie, tout notre temps. Et j'avais mis entre parenthèses la vanité. La vanité dans le sens où même si, donc effectivement, il y a des choses qui sont négatives, mais il y a aussi plein de choses qui nous semblent intéressantes. Et la liste peut être longue parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sources d'intérêt dans ce monde. Ça peut être. Voilà, on peut avoir énormément d'activités qui nous intéressent, que ce soit le sport, que ce soit l'art, que ce soit la musique, que ce soit la cuisine, que ce soit. Voilà, énormément d'occupations, mais en fait, au bout d'un moment, ces occupations vont. Donc, cette paresse, la vanité, nous empêche de voir que. Nous empêche de voir les priorités. Rinpoche disait par rapport à ça, la seconde paresse consiste à être constamment occupé à faire un tas de choses sans vraiment faire quoi que ce soit de vraiment utile et important. En fait, on est noyé par un flot d'activités et parfois on parle de la paresse à l'occidental justement. Pour la comparer à l'autre paresse, la procrastination, c'était Sogyal Rinpoche, je crois, qui disait ça, que la paresse... À l'oriental, c'était plutôt la première forme de paresse, la procrastination. On peut passer ses journées à boire du thé, en flânant, en discutant avec les amis, etc. Alors que la deuxième forme de paresse s'apparente plus à une paresse occidentale, c'est-à-dire on va surcharger nos journées d'activités et qui parfois sont pour la plupart superflues, sans voir qu'est-ce qui est vraiment utile et important, sans voir ce qui est vraiment... qu'est-ce qui va nous être vraiment profitable. Et c'est pour ça qu'on parle un peu de vanité. Alors attendez, excusez-moi, il y a des gens qui sont coincés dans la salle d'attente. Je vais leur ouvrir. Comment je fais? Voilà. J'espère qu'ils ne sont pas coincés depuis trop longtemps. Voilà, désolé à ceux qui étaient coincés dans la salle d'attente. Je viens juste de voir le message. Voilà, et enfin, donc vous voyez sur le petit dessin que je vous ai partagé, je me suis amusé à voir comment à illustrer comment une journée pouvait être facilement remplie d'activités, faire un gâteau, checker son smartphone, repeindre les volets, laver la voiture, faire une sieste, regarder la télé, checker mon smartphone, tondre la pelouse, manger le gâteau, aller courir, etc., etc. La liste est sans fin. Et puis, quelque part, on aime bien avoir des journées bien remplies, surtout quand on a réussi à tout checker sur la liste. Mais au bout du compte, parfois, on peut se coucher en se disant, qu'est-ce qu'on a vraiment accompli de vraiment essentiel. Voilà. Et enfin, la paresse défaitiste. Alors, la paresse défaitiste, c'est considéré comme la plus, on va dire, la plus pernicieuse, la plus négative. La paresse défaitiste, donc j'ai mis entre parenthèses, l'autodépréciation, c'est le fait de ne pas s'estimer capable, de considérer que oh là c'est pas pour moi, c'est trop ambitieux, je suis pas capable de, etc. Vous savez, on peut avoir cette tendance là à se dire dès qu'il est question de faire un effort, dès qu'il est question de travailler, quelque part, on se réfugie derrière le fait de « Oh là, pour les autres peut-être, mais moi, non, je ne suis pas capable. » Et ça, c'est pareil. C'est une tendance qui peut venir vite et qui peut être très négative. C'est-à-dire, on délègue le chemin spirituel aux autres. Voilà, moi, je suis content pour vous, etc. Mais non, moi, vous voyez, moi, ce que j'ai vécu, j'en ai suffisamment bavé. Voilà, des choses comme ça. Ou quelque part, ça nous dispense de faire des efforts. Et ça, c'est quelque part, ça peut être dramatique de laisser cette tendance s'installer parce qu'au bout d'un moment, elle est tellement ancrée que le moindre effort nous paraît inenvisageable. Et même pour la méditation, on peut avoir cette attitude-là. Oui, la méditation, oui, mais ça, c'est pas pour moi. Hein. Moi, ce n'est pas mon truc, etc. La méditation, c'est le truc de personne, quelque part. Il y en a pas qui sont faits pour ça et puis d'autres pas pour ça, puisque la méditation, c'est le fait d'observer son esprit. On est tous candidats à l'éveil, on est tous candidats à la méditation, on est tous candidats au travail sur l'esprit. Tout dépend de nos aspirations. Et si on comprend bien que tout est le fruit d'un entraînement, que ce soit nos tendances négatives sont le fruit d'un entraînement, ça marche aussi dans le sens, nos tendances positives sont le fruit d'un entraînement. Et par contre, il faut envisager le chemin comme quelque chose de progressif, c'est-à-dire on avance petit à petit. Effectivement, il ne faut pas se fixer des objectifs trop hauts. Si on veut travailler sur notre esprit, il faut être habile et savoir envisager le chemin sous la forme d'un escalier où on dose nos efforts de façon à ce que on puisse avancer de manière constante et régulière et puis en voir les progrès. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis on reprendra la suite une autre fois. Ouais, je pense qu'on continuera sur la diligence parce qu'il y a encore pas mal à dire. Avant qu'on fasse une petite séance de méditation pour terminer, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, il faut rallumer votre micro. Pas de questions?
Non, c'est clair, c'est bien clair.
Super. Et ben dans ce cas, je vous propose. Oui.
Organe?
Oui.
Tu m'entends, Francis?
Oui, tout à fait. Je t'entends, Francis.
Ouais. Alors, j'ai une question-remarque, une remarque-question, comme tu veux, concernant la paresse-ville. En fait, toutes ces activités un peu mondaines et quotidiennes que nous faisons tous dans le cadre de nos vies, est-ce que c'est vraiment en fait un obstacle ou est-ce que ça peut être aussi l'occasion de méditer en action, d'être présent à ce qu'on fait et d'observer l'état de notre esprit pendant qu'on tond le gazon, pendant qu'on lave la voiture, ou, etc., etc. Est-ce que c'est si réducteur que ça, toutes ces activités? Si on le fait avec, effectivement, une approche méditative, une approche d'observation de l'esprit, il est évident que si on fait ça comme ça, si on pianote sur son smartphone, sans véritable présence à soi, c'est sûr que c'est de la dilution, quoi. Ça n'apporte rien et c'est vraiment un obstacle. Enfin, à mon sens, c'est comme ça que je comprends.
Ouais, tout à fait. On est, de toute façon, on est dans une société où on fait beaucoup de choses. Mais l'idée de la diligence, c'est de mettre notre énergie et notre temps au service de quelque chose qui va vraiment être utile. Parce que très souvent, en fait, on peut avoir cette aspiration-là. On voit très bien, et on a envie, quoi. On a envie de faire quelque chose qui a du sens pour nous, qui nous parle, etc. Et que parce que, on va dire, soit j'ai pas le temps, oui, mais j'ai pas le temps, ou oui, mais j'ai plein d'autres choses qui m'empêchent de faire ça, bah ça, c'est le signe que, bah, quelque part, nos priorités sont ailleurs. Et donc, il faut porter justement un regard vraiment honnête, hein. Du coup, c'est vraiment un travail d'honnêteté par rapport à ce qu'on fait. C'est comment on se sent par rapport à toutes ces activités, quoi. Si on est profondément honnête par rapport à ça et si on est profondément dans la pratique, eh ben, on ne devrait pas avoir l'impression de courir sans arrêt après le temps. Souvent, dans la paresse-ville, eh ben, en fait, on n'est pas des paresseux dans le sens où on fait plein de choses, mais en même temps, on a toujours l'impression de courir après le temps. C'est-à-dire, voilà, il va falloir faire ci, puis ensuite il va falloir faire ça, etc. Et puis en même temps, il y a un manque de satisfaction. Alors que ce manque de satisfaction, enfin, ce manque de satisfaction, on ne l'a pas quand on fait quelque chose pleinement. Et quelque chose pleinement, ça implique le fait de faire quelque chose qui ait du sens pour nous. On sent que c'est profondément utile à la fois pour nous, à la fois pour les autres. Mais voilà, c'est.
Oui, c'est faire aussi une forme de tri, un peu épurer un petit peu nos activités. Peut-être une ligne conductrice qui serait celle de se centrer sur le plus possible une véritable pratique du dharma avec une intention forte, quoi, quelque chose de.
Ouais.
C'est la motivation et l'attention à avoir une activité, enfin, ou avoir des activités, mais qui ont vraiment un sens dans la direction de la pratique du dharma.
Ouais.
Même dans le cadre de nos vies laïques, nos vies mondaines et laïques, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors évidemment, si on peut trouver une activité qui a du sens, c'est génial. Mais je sais que moi, je vois beaucoup d'amis, beaucoup de proches, de gens qui me disent que c'est un peu ça le problème, qu'elles ne trouvent pas de sens dans ce qu'elles font, dans leur métier, etc. Mais là encore, le Dharma nous dit, mais le sens, c'est à nous de le mettre. Et donc, si on ne trouve pas du sens dans l'activité qu'on fait, le sens, c'est à nous de le mettre. Et donc, ça revient un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire faire les choses en présence, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'on fait. Ça implique d'être présent. Et Ringo et Rinpoche disent souvent, bah voilà, même quelqu'un qui est commerçant dans un endroit qui ne lui plaît pas vraiment, bah, il y a toujours moyen d'être bienveillant envers les gens qu'on croise, être souriant, même dans notre manière de dire bonjour. Il y a bonjour et bonjour. Bah,
Oui.
si on y met du cœur, si on y met de la présence, bah, ce sera toujours une autre occasion de donner du sens, etc. Et donc, ça implique, bah, oui, d'être présent, quoi.
Merci beaucoup,
Je t'en prie.
Organe.
Alors, il est moins 10. Je vous propose de faire 10 minutes de chiné. Et puis, on terminera par la dédicace. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et, sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous. Ça fait plaisir de vous voir.
Merci.
Merci, Morgane.
Je vous envoie dans les prochains jours. Enfin voilà, dans les deux. Ouais, dans les prochains jours, je vous envoie la date du prochain Tchaling.
Entendu.
Okay, d'accord. Entendu. Merci.
Au revoir.
Toi, Rémi, non?
Francis, go.
Allez, Francis.
Salut, Johan et Geneviève.
Salut, Anne et Francis.
Bonsoir, bien, bonsoir tout le monde. Vous allez bien, Geneviève et
Johan? Oui, oui. Ça va. Ça vous fait plaisir de vous voir.
Oui.
Ah bah oui.
Vous avez pas tout côté de neige ces derniers jours?
Oui.
Si.
Ah oui. Oui. Il ne me restait plus que la tête qui sortait.
Oui, ouais. Il y avait beaucoup de neige, alors, même si tu n'es pas très grande.
Oui, voilà.
Bête, tu vas bien?
Ça va, je vais bien, merci. Ça me fait plaisir de vous voir.
Oui, nous aussi. Nous aussi, oui.
Ouais. Anne, envoie-moi un SMS parce que j'ai perdu ton téléphone.
Non, il est sur la table là-bas. Le numéro, tu veux dire?
Oui, le numéro, je ne l'ai plus.
Pas de soucis.
Marie-Odile, coucou. Ouais.
Voilà.
Allez, moi je prends congé. Bonsoir.
Allez. On va faire deux tours.
À bientôt.
Salut.
Allez. Un gros bisou, Nadia.
Ouais, un gros bisou. J'ai quitté la réunion. Okay.